Après l'Altitude Jazz Festival, Bruit Blanc a repris ses concerts à la phase B avec une soirée explosive. Le 18 avril, la scène accueillait deux groupes. Les Louves du Groove, meute de DJ Gapensaise, et Ranko, groupe inclassable, disons héritier du post-punk, venu de Tours. Nous avons rencontré Camille et Boris, deux des cinq Tourangeaux qui composent Ranko. Au micro de Fréquence Mistral, ils nous parlent de l'histoire du groupe, de la composition de leur musique, et de leur engagement au sein de l'association artistique Capsule Collectif.
Camille, et je fais de la guitare et du chant aussi.
Moi je suis Boris et je fais la guitare et je chante.
Étiez-vous déjà venu ici pour jouer ?
Avec Ranko, c'est la première fois qu'on vient jouer à Briançon. Deux personnes du groupe étaient déjà venues avec un autre groupe il y a 5 ans pour répéter à la phase B ce soir là où on joue. Mais le groupe c'est la première fois.
Pour nos auditeurs et auditrices haut alpin, pouvez-vous vous présenter le groupe ?
Alors Ranko, au départ, c'est un groupe qui est influencé par le post-punk et même plus largement le rock et la pop, tout ce qui se fait dans ces familles-là. On était au départ 4 en 2017, on a enregistré notre premier EP en 2019, un premier album sorti en 2022. À partir de là, on a ajouté une cinquième personne, Gabriel, au clavier. Maintenant, on est 5 et on vient de sortir notre deuxième album qui s'appelle Monument Movement et le groupe est maintenant à 5.
Comment vous vous êtes rencontrés tous ?
On s'est rencontrés via une école de musique à Tours qui s'appelle Jazz à Tours. Et en fait, on a tous été élèves dans cette école, pas forcément dans la même promotion, mais entre les cours, les profs, les sorties, avec les concerts dans les bars, en fait, on se rencontre à travers les générations et tout ça, c'est cool quoi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ensemble ?
Alors au départ, le groupe, ça venait d'un trio avec un autre batteur, qui avait François, mon frère et moi. Le batteur est parti de ce trio, disons, pour faire court. Donc on a appelé Camille, qui est ici présent, pour faire la guitare. Et puis Antoine, un copain batteur, nous a rejoint. Donc ça s'est fait un peu, effectivement, via Jazz à Tours, comme disait Camille, et puis via les connaissances. Et à partir de ce trio-là, qui était au départ le proto-Ranko, on va dire.
Ranko signifie, si je ne me trompe pas, rang zéro. Quelle est l'histoire de ce nom ?
Alors l'histoire elle est assez complexe. Au départ, je cherchais un peu des noms. Il y avait des mots comme Hank, Tank qui me venaient, qui sonnaient bien. Hank c'était déjà un groupe, ça je l'ai appris à ce moment-là. Bon voilà, Tank, Rank, je sais pas, c'est venu un peu comme ça par progression dans ce style de mots. Et puis je trouvais ça un peu sec, Rank. Et donc du coup on l'a adouci en rajoutant une lettre. Après, il y avait une idée aussi, ça m'est venu il n'y a pas longtemps ça, mais qu'on voulait jouer tous en rang au début, les quatre faces publiques. On avait vu Dirouf faire ça, qui est un groupe qu'on aimait bien. Et on trouvait ça assez beau, cette disposition, ça changeait un peu. Et voilà, ça participait un peu de tout ça. Mais en fait, c'est aussi un truc de, au bout d'un moment, ça sonne bien. Et voilà, il n'y a pas forcément de signification précise à part ça, quoi.
Donc c'est bien une lettre et pas zéro.
C'est un O.
Sur le site de Capsule Collectif, coopérative de musiciens dont vous faites partie, la description de votre musique m'a interpellée. Après le punk, après l'indie rock, après la synth pop, après le mat rock, je ne sais pas si je prononce très bien puisque je ne connais pas tous ces termes, après les considérations arty, après les clivages pop et musique savante, Ranko joue la musique d'après tout ça. Après punk, mais pas post-punk. Alors, qu'est-ce que cela signifie, jouer la musique d'après tout ça ?
En gros, c'est un texte qui avait été écrit à notre demande par Adrien Durand, qui était un relais presse au moment où on a sorti le premier EP, et le premier album d'ailleurs, et on lui avait demandé d'écrire un petit texte, et on trouvait ça pas mal, cette introduction, parce qu'en fait, on est inspiré par plein de choses, et il y avait un double mot dans l'après, après punk, parce qu'il y avait, on vient après toutes ces mouvances-là, et en même temps, on joue une musique qui est assez plurielle, d'après toutes ces musiques-là, donc... On trouvait le double sens bien vu, quoi. Voilà.
Donc après et d'après. C'est beaucoup de registres musicaux que tout le monde ne connaît pas. Est-ce qu'on peut au moins peut-être définir ce qu'est le post-punk ?
En gros, je pense qu'on peut traduire ça littéralement, donc ce qui apparaît après le punk. Donc le punk qui s'inscrit lui-même en tant que mouvement de rupture par rapport à ce qu'il y avait avant, qui était pas mal le rock progressif, des groupes comme on va dire Pink Floyd, et pour schématiser un peu. Et le post-punk, c'est selon moi des groupes qui ont effectué la cassure punk, mais en se réappropriant à nouveau d'autres courants esthétiques et peut-être en y ajoutant des choses supplémentaires à la simple énergie brute du punk, quoi. Ramener des synthétiseurs, ramener des arrangements, j'en sais rien, de cordes, de piano, qu'il n'y avait pas dans le punk original, quoi. C'est comme ça que moi je le vois.
Avec d'autres termes que ceux des registres musicaux, comment vous décririez votre musique ?
Moi, je trouve qu'il y a pas mal de chansons et je trouve qu'il y a une dimension parfois un peu... presque bruitiste sur certains sons. Voilà, il y a une recherche vraiment sur la chanson en termes d'efficacité populaire d'ailleurs, couplet-refrain et des choses comme ça. Et à l'intérieur de ça, on essaie d'y injecter un peu des sons un peu bizarres, quoi.
Quelles sont vos influences ?
Plutôt des groupes quand même, donc des groupes des années 80 comme Divo. On nous parle souvent de Talking Heads, c'est pas forcément un truc que moi j'ai beaucoup écouté, mais c'est vrai que la musique à plein de moments peut se rapprocher de ça. Après des groupes des années 90 comme US Maple, My Bloody Valentine, 80-90 quoi. Mika Chou, Mika Levy, qui est une anglaise qui a fait un groupe qui s'appelle Mika Chou and the Shapes et qui est vraiment super et dont on s'inspire beaucoup. Après, on a tous nos cultures assez proches. On se rejoint aussi beaucoup sur... même si la musique ne fait pas du tout penser à ça, mais on a tous quand même un côté musique américaine de manière large. Je sais pas, la folk, la pop. Voilà, il y a plein de choses. Aldous Harding, on a beaucoup écouté cette espèce de pop un peu bizarre aussi. Voilà, toujours des groupes qui sont quand même un peu dans des directions un peu obliques par rapport à... Ça, je crois que c'est un truc qu'on aime bien, qui ont vraiment un truc à eux qui est unique. Ça, c'est vraiment le... Peu importe, j'ai l'impression, le style, je pense qu'on est tous quand même attirés par ce côté unique qu'arrivent à tracer certains groupes.
Vous vous retrouvez dans vos influences, en tout cas.
Oui.
100 000, c'est le seul titre en français. Pourquoi chanter en anglais et non en français ?
J'ai l'impression que c'est pareil, en fait, dans une manière de gérer les sonorités des mots. Il y a des mots en anglais qui, selon, dans un certain cadre, en l'occurrence le nôtre qui est quand même très influencé anglo-saxon dans la composition, eh bien les mots rebondissent beaucoup plus facilement que le français, même si c'est pas incompatible, en effet. Et ce qu'on a essayé de faire avec 100 000, dont on était assez content, et en même temps, ça veut pas dire que grâce à ce morceau, on a pour le moment su trouver une recette pour que le français fonctionne avec notre musique. C'est très dur.
Sur 100 000, j'ai l'impression que c'est celle qui était la moins identifiable en termes de style. Et donc, on avait peut-être moins de rapport à une langue précise parce qu'elle était un peu unique sur l'album. Enfin, il y avait un côté, il y avait un côté objet un peu spécial sur ce morceau. C'est pas vraiment du rock comme on faisait, donc ça a marché sur ce morceau. C'est assez mystérieux, mais ça a marché.
Comme si le rock devait se faire en anglais, comme si la langue était associée au style.
Il y a quelque chose comme ça quand même, j'ai l'impression.
Dès l'instant où il y a vraiment des mélodies très définies, avec des appuis rythmiques, j'emploie le mot rebondissant, mais bon, c'est voilà. Enfin, je pense que tout le monde peut comprendre. En français, j'ai l'impression que c'est plus difficile de par la langue. Par contre, la langue peut se poser sur ce type de musique, mais ça va être plus sur des timbres de voix, presque parler, chanter, comme on a vu évidemment, Gainsbourg, quelqu'un de très populaire. En effet, j'ai l'impression que ça marche mieux comme ça, le français, sur ces musiques-là. Après, il y en a certains, par exemple, on aime beaucoup Bertrand Belin, qui est un chanteur de chansons français contemporain, et lui qui va quand même pas mal chercher des mélodies et tout ça. Et puis peut-être qu'il y a aussi ce fameux poids de l'héritage de la langue française, de je sais pas quoi, qui peut parfois être un peu pesant, quoi.
Tant à travers les paroles qu'à travers l'instrumental, que racontent vos musiques ?
Ça dépend, il y a des chansons pas mal d'amour sur le premier album, des chansons sur la mort, il y en a quand même 2-3. Voilà, c'est des chansons aussi un peu existentielles, je pense. Mm-hmm. Et puis en fait, je pense qu'on n'écrit pas par rapport à un sujet prédéterminé, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait justement sur l'anglais, c'est que d'abord, on compose en faisant ce qu'on appelle du yaourt, donc en voyant quels mots, on singe un peu l'anglais, pour voir ce qui marche avec la musique. Et puis après, on trouve un texte à partir de ces mots qui se sont détachés, qu'on trouve puissants dans la musique à ce moment-là. Et voilà. Mais il se trouve que finalement, ça reste des thèmes finalement qu'on entend beaucoup dans les chansons en général, quoi. Mmh. C'est-à-dire l'amour, la mort.
Vous composez et écrivez vous-même?
Oui.
Vous avez donc deux albums à votre actif, De Novo en 2021 et un tout nouveau Monument Movement. Est-ce que vous voyez déjà une évolution dans votre musique?
Oui, surtout que on a un peu changé notre manière d'écrire les morceaux, de les orchestrer, et qu'on a ajouté une nouvelle personne après le studio. Parce qu'en studio, on peut se permettre de... On peut simuler 20 musiciens en fait, ou musiciennes dans le morceau, alors qu'en fait, évidemment, en live, c'est pas possible. Et justement, en recrutant Gabriel, en fait, on a apporté du synthétiseur. Même s'il y en avait, il y avait un peu des prémices dans les précédents, mais en live, c'était très difficile de réussir à le faire, quoi, à le jouer ensemble. Donc, ajout de différents sons de clavier. Il y a une deuxième basse, et encore une nouvelle guitare. La batterie balance aussi des boucles un peu électroniques. Donc oui, ça a beaucoup évolué.
Bah là maintenant, comme je disais tout à l'heure, la composition s'est un peu ouverte, il y a ça un peu qui a évolué, mais bon, c'est peut-être un détail parce que le son du groupe était là depuis un moment déjà, donc en fait les nouveaux compositeurs sont greffés sur ce son de groupe qui était là, et donc je pense qu'il y a quand même une patte un peu différente de ce fait-là, enfin c'est un truc qui a changé quand même.
Oui, et puis mine de rien, ça fait quand même pas mal de temps qu'on joue ensemble, et donc à force de faire des concerts, on se rend compte qu'il y a certains trucs qui marchent pas du tout, qu'on sait pas faire entre guillemets, ou qu'on n'arrive pas à faire, et certains trucs qu'on arrive à projeter en se disant ok, ça a priori ça va fonctionner, et donc en fait on va aussi plus vite dans la méthode de composition, et donc on écrème plus rapidement, et là où on tâtonnait plus avant, et maintenant on est plus sûr de certaines bases, on va dire.
Comment est-ce que vous composez justement?
Bah, en général, c'est l'un de nous qui ramène l'ossature principale, mélodie, le texte se fait en général après, et puis on arrange ensemble. On essaie les parties, soit qui ont été préenregistrées, soit on se voit un peu avant pour que la personne nous explique un peu les parties. Puis ouais, après on voit ce qui marche, ce qui marche pas, si quelqu'un a une nouvelle idée, on essaye, voilà.
Chacun peut venir avec une idée?
Ouais bien sûr, il y a un... On peut appeler ça un groupe démocratique. Voilà.
Ce deuxième album a été enregistré à partir d'un live?
Oui, c'est un morceau qui a été enregistré live, mais ça ne veut pas dire que c'est à partir d'un live. En fait, c'est un terme un peu de presque technique, mais enregistrer live, ça veut dire enregistrer tous les instruments en même temps. Contrairement à faire du re-recording, qui va consister en faisant par exemple au début juste la basse et la batterie avec un métronome pour avoir le tempo, et après tout le monde se rajoute en piste par piste dans le logiciel.
C'est ce qui se fait habituellement?
Pas forcément, il y a vraiment ces deux méthodes. Il y a en gros live, en re-re, donc re-recording, parfois un mélange des deux, et même c'est souvent le cas. Ça dépend vraiment de la direction esthétique. Des trucs très produits, je sais pas, admettons Britney Spears, oui, il n'y a aucune prise live là, c'est vraiment... C'est que des productions en lasagne, quoi, en couche par couche, exactement. Nous, on a voulu enregistrer live parce que souvent, il y a plus d'aspérité, il y a plus de défauts, et ça correspond assez bien aux musiques brutes qu'on aime, on va dire.
Pour finir, j'aimerais parler du Capsule Collectif dont vous faites partie. De quoi s'agit-il?
Le Capsule, c'est un collectif, donc c'est une association créée en 2011. Au départ, c'était pour mutualiser un peu les énergies et les efforts pour des groupes qui étaient dans des musiques un peu marginales, entre guillemets, inspirées par le free jazz, les musiques expérimentales. Donc il y avait quatre groupes au départ. Et comme c'était dur, enfin c'est très dur de faire vivre ces musiques-là tout seul dans son coin, donc il y a eu cette association de quatre groupes. Et depuis, ça s'est structuré de manière un peu plus importante. Maintenant, il y a 12 ou 13 groupes, il y a un bureau, il y a ce qu'on appelle des coordinateurs donc qui s'occupent de tout l'administratif du collectif, trouver de l'argent, parce qu'on est financé par la DRAC, par la région Indre-et-Loire, la ville de Tours. Maintenant, il y a 25 musiciens, musiciennes, 3 personnes au bureau, 2 personnes permanentes qui travaillent toute la journée pour faire vivre ça. Donc il y a plein de choses. Ça nous permet de faire des résidences, cet argent. Ça nous permet d'organiser ce qu'on appelle des EAC, c'est-à-dire des actions culturelles dans les quartiers, les zones rurales, avec des assos, avec des publics qui ne sont pas forcément des publics de concerts qui vont voir forcément des concerts, donc ça peut être des EHPAD, des centres sociaux en tout genre. Donc voilà, il y a toute une action très importante là-dessus qu'on fait à Tours, et voilà en gros. Et puis les groupes sont quand même toujours, il y a quand même toujours une exigence de musique, donc c'est que de la musique originale. Original au sens propre, hein, pas vraiment que des compositions. Ça reste quand même des groupes de niche, quoi. Nous, on est peut-être le groupe le plus identifiable. Sinon, il y a beaucoup de groupes quand même qui ont besoin de ce type de structure aussi pour vivre et pour voilà, parce que c'est compliqué. C'est déjà compliqué pour les groupes comme nous, qui sont un peu plus mainstream, ouais, plus accessibles. Et donc c'est encore plus dur pour les groupes de free jazz ou de musique improvisée. Ouais.
Il y en a beaucoup des collectifs de ce type pour les musiciens.
Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. Ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années où il y en a beaucoup. Nous, on a pris exemple au départ sur le collectif Coax à Paris, qui avait fait un peu ça. Bon, après, c'est un vieux truc, ce truc de collectif de musiciens. Ça se voyait beaucoup aux États-Unis dans les années 60. Mais c'est vrai qu'en France, depuis 15 ans, il y en a pas mal. Dans le coin, je sais pas, on n'a pas trop d'antennes dans le sud-est, mais il y a pas mal de collectifs de jazz et de musique improvisée quand même. Ça se voit, pas mal.
Le collectif a pour but, je cite, d'aider, soutenir, promouvoir et diffuser une culture libre, exigeante et engagée. Qu'est-ce qu'une culture libre et engagée pour vous ?
Défendre une musique originale, une culture libre, ce serait, c'est vraiment pas sympa comme question. Mais en gros,
qui souhaite s'affranchir de, enfin, une musique qui souhaite ne pas être formatée en fait. Donc, je pense que la liberté se situe là-dedans. Voilà, essayer de développer des groupes qui n'ont pas pignon sur rue. Qu'on a peu de chances d'exister en dehors de ce cadre-là, quoi.
D'où la difficulté aussi de se définir dans un style, parce qu'on parlait des styles tout à l'heure, après, machin, après, tout ça, là. Et en fait, ouais, parce qu'on est imprégné de plein de musiques différentes, et il y a un moment où on veut faire un peu notre truc sans, en ayant la liberté de créer des ponts, peut-être qui existent déjà, justement, mais en tout cas, de les faire à notre manière et de les faire sans projection autre que celle de faire quelque chose qui sonne sur le moment pour nous et qui peut-être pas forcément identifiable pour les gens. Puis à partir du moment, je pense quand même, où ça nous plaît à nous, c'est communicable. Enfin, ça va plaire à des gens. Si on suit vraiment ce qu'on veut faire, je pense qu'il n'y a pas de... On fait pas de la musique pour les gens, ça n'a pas de sens, j'ai l'impression. Donc c'est d'abord cette liberté, oui, dans la création, voilà.
Ouais. Et puis après, concernant le terme « engagé », je pense qu'il y a un élan commun dans le collectif de vouloir fonctionner horizontalement entre nous et avec les gens en général, et notamment avec qui on va travailler, les centres sociaux dans lesquels on va potentiellement jouer. Alors c'est vraiment, évidemment, un travail très dur, parce que c'est très difficile. Enfin, c'est une question, par exemple, que je me pose, hein, mais ça veut dire quoi de jouer du free jazz dans un endroit où les gens ne connaissent absolument pas cette musique, qui peut être extrêmement... je sais pas comment dire, mais... très difficile,
voire agressive.
Ouais, voire agressive et tout ça, donc c'est très paradoxal tout ça, mais en tout cas ouais, il y a cet élan commun d'horizontalité, je pense, et donc dans une société qui globalement est inégale, voilà, très verticale, et voilà.